Rencontre avec. Le mot rencontre se définit curieusement par rencontrer quelqu'un ou quelque chose, de manière fortuite ou non, sur son chemin. Comme si le mot rencontre se définissait par rencontre.
En avril 2022, des élèves du lycée Estournel de Constant ont vu le documentaire Média Crash, qui a tué le débat public ? Une enquête de Valentine Auberti et Luc Hermann sur la concentration de certains médias par quelques industriels milliardaires. Dans ce documentaire d'une heure et demie, la rédaction de Mediapart et l'agence Première Ligne racontent les coulisses des grands médias. Le débat était animé par le directeur du cinéma, Jean-François Joly, et par Géraldine Delacroix, une journaliste de Mediapart.
Choses qui sont dites peut-être à la fin très peu commentarisantes, mais en fait on peut pas être d'accord ou pas d'accord parce qu'en fait ce sont des informations et le film montre bien par sa densité que le travail des journalistes c'est d'abord de donner des informations. Après on peut, et c'est pas les informations, il n'y a pas à être d'accord ou pas d'accord, c'est des faits, ils sont là. Après on peut avoir effectivement, on peut en penser quelque chose, on peut penser par exemple que c'est une bonne chose ou que c'est une mauvaise chose. Voilà. Mais on ne peut pas être en désaccord avec un fait, comme le fait que...
C'est vrai,
c'est vrai. Retourne.
C'est vrai. Peut-être une première réaction de votre part, Géraldine, sur ce film, et puis on va donner après la parole aux élèves. Un éclairage ou une réaction ?
C'est beaucoup ça que je voulais dire. C'est les journalistes... Alors, vous l'avez vu... Donc subissent tout un tas de pressions qui sont généralement invisibles puisque ce que vous voyez c'est le résultat final. Ça va être un article de journal ou ça va être un reportage à la télévision ou une enquête. Voilà, là le film montre les coulisses un peu et donc les coulisses, un certain type de coulisses, les pressions qui sont des pressions très souvent soit économiques. Soit politique, voilà, et c'est ce que le film voulait montrer. Ce que vous ne voyez pas, c'est, en revanche, c'est tous les bénéfices de l'indépendance des médias qui ne subissent pas de pression économique ou politique. Et bien c'est justement de ne pas vivre avec ces épées de Damoclès sur la tête que sont des menaces de budget publicitaire coupé, des menaces de... Bon, les procès, il y en a de toute façon. Ça fait partie du jeu, du journalisme d'investigation. Les gens vont faire des procès, mais si on a les moyens, si la rédaction a les moyens d'y résister, évidemment, c'est différent du cas où la rédaction va dire « Bah non, alors si vous nous faites un procès, alors on ne publie pas, par exemple. »
Moi, je me demandais, c'est quoi l'intérêt d'envoyer des dossiers confidentiels pour au final les renvoyer si on n'a pas le droit d'en parler ?
Alors, là, sur la dernière séquence, c'est ça que tu veux dire ? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui pense que c'est important de faire sortir dans les journaux, donc à la connaissance du public, qu'effectivement, les armes françaises sont employées au Yémen dans des circonstances... finalement qu'on ne connaît pas. Et donc en fait, peut-être, pour certaines qu'on ne connaît pas et pour d'autres qu'on connaît, et on sait que les armes fabriquées par la France, qui est le troisième exportateur mondial d'armes, il faut quand même le savoir, donc les armes sont utilisées, en l'occurrence par les Saoudiens, pour taper sur des civils. Il y a quelqu'un qui a cette information officielle de la direction du renseignement militaire et qui pense que cette information mérite d'être connue. Et cette personne va la donner à des journalistes. Et de l'autre côté, le ministère veut la reprendre, c'est normal, parce que c'est secret défense, et eux, ils veulent pas que ça sorte. Donc c'est pas les mêmes gens, c'est ça le truc. C'est que ce ne sont pas les mêmes personnes qui donnent les infos que celles qui veulent, au contraire, les écraser.
Donc effectivement, la France vend énormément d'armes dans le monde et c'est un revenu très important pour la France, la vente d'armes.
Voilà, et notamment Dassault vend des avions et Dassault possède le Figaro. Et donc, ce n'est pas dans le Figaro que vous allez trouver des informations sur voilà, les méfaits qu'entraîne la vente d'armes par la France.
On a bien compris la pression sur les journaux dépendants, on va dire, du pouvoir. Mais j'ai une interrogation sur les journaux indépendants, puisqu'ils sont quand même... on l'entend justement dans l'affaire qui vient d'être évoquée, là, c'est quand même dangereux, y compris pour les journaux indépendants, de parler.
Oui, c'est vrai. Heureusement, quand même, on est dans une démocratie relativement solide. C'est dangereux parce qu'il y a une arme qui est financière ou judiciaire. Donc là, en l'occurrence, l'État décide de faire pression sur des journalistes pour les faire taire, pour cacher ses secrets d'État. Donc quand on est face à la machine d'État, c'est effectivement quand même un peu embêtant. Mais alors après, donc, c'est une question de surface financière aussi, de solidité économique du média qui va pouvoir affronter tous ces procès. Fakir aussi, c'est un petit journal de François Ruffin, même s'ils sont devenus célèbres avec Merci Patron et tout ça, mais ça, économiquement, c'est une toute petite affaire. S'ils ont des procès qui leur sont faits, que ce soit par LVMH, Bernard Arnault, l'État ou qui on veut, s'ils ont des grosses amendes, ça peut vraiment les fragiliser d'un point de vue économique. Donc il y a beaucoup de rédactions qui ne peuvent pas faire toutes les enquêtes qu'ils veulent ou qu'ils aimeraient publier parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas les moyens de subvenir aux frais de justice qu'il y a derrière. C'est intéressant que dans cette histoire, Bolloré, dans l'histoire Bolloré, il ait été condamné aussi pour dénonciation abusive ou calomnieuse. Parce que ça leur montre qu'ils ne peuvent pas tout faire. Mais la pression économique peut être aussi importante sur des journaux qui sont justement indépendants et qui ne sont pas assez solides financièrement.
Parce que les procès coûtent très cher et qu'ils ont beaucoup d'argent et que les journaux n'en ont pas beaucoup.
Oui, c'est ça.
Et donc, qu'est-ce que vous risquez là avec cette révélation? Vous avez anticipé justement ça
Je ne suis pas sûre. Mais alors, il faudrait déjà que quelqu'un porte plainte ou que l'État, la justice se saisisse et que le procureur de la République de Paris, vraisemblablement, décide d'aller poursuivre Valentine, Mediapart, etc., pour avoir reparlé de cette histoire. Donc c'est un risque là pour eux qui va être politique, en fait. Est-ce qu'ils ont envie d'aller faire un procès pour museler la presse sur des ventes d'armes, etc.? Ou est-ce qu'ils n'ont pas envie? On peut penser que peut-être pour l'instant, en ce moment, en tout cas, ils n'ont pas envie. On verra après les élections, peut-être ça changera. Dans ce cas-là, si ils nous font un procès, nous, on est solide financièrement, grâce justement à un modèle économique qui est basé sur les amendements et qui nous a permis, voilà, maintenant en 14 ans d'existence, d'être bénéficiaire. Voilà. Et donc, on peut se payer... une défense sérieuse. On peut affronter des procès, mais on ne pourrait pas non plus, il ne faudrait pas qu'on soit condamné à des sommes folles, etc. Ça nous mettrait en péril aussi, oui.
Mais alors, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à devenir dépendant, de faire partie d'un média dépendant?
L'argent, le pouvoir, je sais pas.
Oui, mais pour les journalistes,
ils auraient pu gagner l'argent d'une manière autre.
Oui, à un moment, vous êtes pris dans un système. Surtout quand vous êtes une star qui gagne des mille et des cents, c'est beaucoup plus difficile de s'en passer que quand vous avez un salaire plus dans la norme du standard. Après, les journalistes, c'est un métier comme un autre qu'il faut pratiquer. Et il n'y a pas toujours des employeurs qui se présentent. Et puis, donc vous trouvez, vous allez travailler par exemple sur CNews parce que c'est tout ce que vous avez trouvé en sortant de l'école. Et vous espérez ne pas y rester 107 ans et trouver une meilleure boîte. Comme dans n'importe quel métier, en fait.
Alors, moi, j'ai une question. Enfin, je vais peut-être me faire un peu l'avocat du diable.
Bien sûr.
Mais quand je vois la manière de procéder dans Cache Investigation quotidien, le fait, effectivement, de tomber sur des politiques qui, évidemment, se trouvent finalement piégés parce qu'on leur tend le micro, ils n'ont pas forcément préparé, ils sont venus dans un salon, dans un forum, dans une AG... j'ai un peu l'impression que c'est aussi pour faire du buzz, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y aura de l'audience sur ce type de vidéos qui vont être faites, qui vont être liées après sur les réseaux sociaux. Et des fois, je trouve que c'est un peu hypocrite quelque part, parce qu'on a l'impression que c'est ça l'actualité, qu'effectivement, on brandit le document ultra secret, confidentiel. Et je sais pas, ça me met un peu mal à l'aise, moi, parce que je me dis, bah, c'est peut-être pas ça qu'il faut donner, finalement, comme information aux gens. Alors, je vais être complètement l'opposé de ce qui est dans le film, mais je voulais quand même communiquer sur ça.
Ben, en fait, le truc, c'est que ils ne répondent pas, sinon. Donc, vous leur envoyez des mails, vous passez des coups de fil, et ils répondent pas. Donc, si on veut avoir une réponse, il faut aller les prendre, effectivement, là où ils sont. Et les brusquer un peu. Parce que sinon, vous obtenez jamais de réponse. Et donc, c'est quand même extrêmement important de confronter les personnes qui sont responsables de quelque chose aux preuves qu'on a trouvées. Et donc, la ministre, elle est là devant l'Assemblée nationale, comme moi je suis là devant vous, elle dit non, les armes françaises ne sont pas utilisées contre des populations civiles au Yémen. En même temps, on a la preuve que c'est un mensonge et que son ministère sait que c'est faux. Donc on va lui dire, voilà madame, vous nous avez raconté des conneries, passez-moi l'expression. Et là, donc, elle continue évidemment de ne pas répondre. Mais c'est pas forcément... Comment dire ? Il y a une mainmise aussi de la communication de plus en plus forte qui fait qu'ils refusent, ils refusent, ils refusent toujours de répondre. Et c'est important que les gens sachent aussi que ces personnes refusent de répondre. Et en même temps, ce refus est extrêmement contestable. Ils sont payés, là en l'occurrence les ministres, avec nos impôts, pour diriger le pays d'une certaine façon, et pas pour mentir aux gens. Qu'un ministre mente sur ce que fait la France à l'entièreté de la population, c'est extrêmement grave. Et les journalistes sont là justement pour aller creuser cette histoire. Après, il y a d'autres histoires, ça peut être Orpea, par exemple. Orpea, il y a des preuves de choses, de malversations qu'ils ont fait, comme, voilà, ils ne mettent pas assez de gens pour s'occuper des personnes âgées dans les EHPAD, et ils vous affirment, mais vraiment, ils sont pris le doigt dans le pot de confiture. Et avec toute la candeur du monde, ils sont là, c'est pas vrai. Mais il faut montrer ça. Il faut montrer ce cynisme qu'ils ont, cette violence du mensonge aussi qu'ils préfèrent.
Pour aller dans le sens de ma collègue, en fait, je crois que ce qui est gênant, c'est pas tellement le mode d'interpellation et l'endroit où ça se passe. C'est le mode de médiatisation qui ressemble parfois, et en particulier dans Cache Investigation, que j'apprécie par ailleurs. Mais c'est vrai que c'est une question. Est-ce qu'il faut répondre sur le même mode, c'est-à-dire sur le mode du buzz, quoi, ou du bad buzz, parce qu'on sait que... Mais c'est vrai que c'est un problème. Par exemple, le scandale Orpea, comme il n'est pas médiatisé sous forme de véritable buzz, ben, je pense que les jeunes, là, si on faisait un sondage, ils nous diraient qu'ils ne savent pas de quoi on parle.
Bah là, en l'occurrence, quand même, Cache Investigation, ils ont fait des pas chez Orpea, mais dans l'autre boîte Corian, l'autre énorme entreprise d'EHPAD, de maison de retraite. En fait, le truc, c'est pas qu'on répond. Nous, on pose les questions, en fait, on cherche les informations. Et si on parle vraiment de Cache Investigation, bon, le but du journalisme, je rappelle, c'est donner des informations et tant que possible, avoir un impact sur la société et un impact positif qui va être que ces mauvaises pratiques de mauvais traitement envers les personnes âgées dans les EHPAD, que ce soit vraiment des maltraitances parce que le personnel n'est pas assez nombreux, ils n'ont pas le temps de s'occuper convenablement des personnes, donc ils vont les brutaliser, pas forcément méchamment, hein, mais c'est-à-dire qu'ils ne vont pas prendre le temps de faire bien les choses. Et donc ça va être difficile pour des personnes qui sont super fragiles, parce qu'elles sont très âgées, pas mobiles, etc. Et que voilà c'est clairement, dans un EHPAD, vous avez des vieilles personnes qui veulent aller aux toilettes la nuit, mais personne n'a le temps de les emmener aux toilettes la nuit. Et donc, c'est pas de la méchanceté, mais c'est de la maltraitance, parce que ces personnes sont laissées dans leurs difficultés. Donc si ça peut changer grâce à ces enquêtes, c'est une bonne chose. Enfin, c'est le but, en fait. Et la médiatisation un peu, à grand bruit, à grand fracas, c'est une question de rapport de force. Si ça reste au niveau où personne n'en entend parler, en fait, eh ben, rien ne va changer. Donc le fait que tout le monde en parle, le buzz, le bad buzz pour l'entreprise mise en cause, ou tel ministre, ou n'importe quelle personnalité, c'est du rapport de force, c'est un moyen d'espérer obtenir des résultats et un impact positif sur la société et pour les personnes qui sont victimes, parce qu'en fait, il y a toujours des victimes de ces manipulations, des malversations, qu'elles soient des entreprises, voilà, des laboratoires pharmaceutiques, de n'importe des gouvernements qui cachent la vérité. Voilà, c'est toujours à un moment les citoyennes et les citoyens qui sont lésés d'une façon ou d'une autre.
C'est compliqué, c'est peut-être qu'effectivement, vu qu'ils sont de meilleurs qu'avant en communication, ils contrôlent de plus en plus, ils verrouillent de plus en plus, les journalistes sont obligés d'aller plus loin, plus fort pour que ça sorte. Et c'est vrai que parfois, on a l'impression que ça peut être agressif, un peu trash, et que sinon, ils ne se font pas entendre, mais que c'est une dérive un peu globale et qui peut rebuter certaines personnes en disant « Oui, bah, je suis sûrement d'accord avec le fond, mais la façon dont c'est exprimé, ça me gêne parce que ça va trop loin. » Je pense que c'est un peu ça l'idée aussi.
Oui, oui. Je dirais qu'il ne faut pas confondre la cause et la conséquence. Et que si les journalistes montent un peu en agressivité, si on peut dire, c'est parce qu'en face, les gens se moquent de nous, littéralement.
Une dernière question, dernière intervention.
Merci. Alors, j'ai pas du tout envie de casser des futures vocations de journaliste, mais je repense à Valentine et à l'autre journaliste où le documentaire me donne l'impression qu'ils sont parfois assez seuls face aux menaces d'amendes, d'emprisonnement, etc. Et donc, je me demande comment, en tant que journaliste, on se prépare à faire face à ce genre de choses.
Alors, le fait est qu'ils ne sont pas seuls, en fait, puisqu'ils ont des rédactions derrière eux, et que si, bien entendu, ces journalistes sont condamnés à payer une amende, ça va être l'entreprise qui va la payer. Quoique parfois, certains soient condamnés en leur nom propre, c'est-à-dire que la justice demande explicitement que ce soit eux qui payent. Mais, donc, c'est embêtant, parce que si vous êtes condamné, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre qui paye, en fait. Mais... C'est en tout cas l'entreprise qui va payer les frais d'avocat. Et puis, la loi sur la presse est ainsi faite que le journaliste est poursuivi et le directeur ou la directrice de publication, c'est-à-dire que la plus haute personne de l'entreprise. Donc, que ce soit une radio, une télé, un journal, ce serait la présidente de France Télévisions, par exemple, si des journalistes de France Télévisions sont poursuivis. Mais la justice va poursuivre. En fait, qui fait des procès ? C'est les personnes, en général, qui s'estiment diffamées. Donc les journalistes sont poursuivis pour diffamation et sont souvent relaxés, puisque souvent, ils ont les preuves de ce qu'ils disent. Et souvent, les personnes qui font des procès ne vont pas jusqu'au bout. C'est-à-dire que ça, c'est des trucs qu'on entend très souvent. « Ah, je vais porter plainte contre tel journal ». Qui a dit que j'avais fait telle ou telle chose que je nie. Donc il y a une menace. Mais soit la personne va porter plainte et puis va abandonner en cours de route, soit la personne ne va pas porter plainte du tout. Et souvent, ça se retourne contre eux parce que le procès permet justement aux journalistes de montrer la preuve de ce qu'ils avancent. Et c'est la personne qui a fait le procès pour diffamation qui se retrouve... comment dire ? Ça montre au grand jour que les journalistes avaient raison. Voilà. Donc, mais effectivement, ça reste quelque chose de désagréable, de subir des campagnes de dénigrement, éventuellement sur les réseaux sociaux aussi, de se retrouver devant un tribunal juste parce qu'on a fait son travail, etc. C'est pas agréable, mais il faut savoir que plus vous êtes dans une grosse rédaction, plus vous avez le soutien en fait, de votre entreprise, qui collectivement aussi... voilà, c'est un risque collectif. Un article, c'est pas un journaliste tout seul au monde. Publier un truc.
Je voulais donc laisser la parole en mot de conclusion à notre invité.
Mais je vais essayer d'élargir un peu l'horizon du journalisme, si certains d'entre vous peut-être se posent la question de faire ce métier. Il y a plein de façons de faire ce métier, pas seulement l'investigation comme on l'a vu là, mais aussi le reportage autour du monde, le reportage local, le reportage dans des situations de guerre, comme vous voyez beaucoup en ce moment les journalistes qui sont en Ukraine et qui voilà, qui prennent de grands risques, mais qui font des choses qui sont aussi passionnantes pour ceux qui aiment aller voir voilà, ce qui se passe en vrai, quelque part. Il y a ceux qui font de la télévision, on a vu beaucoup là, de la radio. Il y a l'écriture. La critique de cinéma, par exemple, aussi est une forme de journalisme, le journalisme culturel. On a vu peut-être un peu là du journalisme politique, mais il y a mille façons de faire du journalisme dans mille supports, des grands, des petits, audiovisuels ou pas audiovisuels, ou sur Internet.
Sur Internet.
Sur Internet, voilà. On est presque tous sur Internet maintenant. Donc voilà, et c'est un très très beau métier malgré ses difficultés, voilà, et plein d'imprévus. Et c'est un métier où vous ne faites jamais deux jours de suite la même chose. Et c'est une grande partie de son charme.
C'était la rencontre avec le documentaire Média Crash, qui a tué le débat public, et avec Géraldine Delacroix, une journaliste de Mediapart.